LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Προσοχή, προσοχή! Διαταγή των γερμανικών αρχών κατοχής. Όλοι οι άντρες από 14 έως 60...
Quand vient le fascisme en Europe? Aujourd'hui, les racines d'une idéologie.
Προσοχή, προσοχή! Διαταγή της γερμανικής στρατιωτικής δίκης έως Αθηνών.
Joël Fontaine, vous êtes agrégé d'histoire, vous travaillez actuellement sur la guerre civile en Grèce. Quelle serait pour vous l'origine du régime des colonels, en tout cas cette résurgence de l'extrême droite en Grèce en 67?
Le problème, c'est que ça n'est pas vraiment une résurgence en fait. Il y a une continuité, et une continuité qui remonte à des années qui sont vraiment décisives pour comprendre l'enracinement de l'extrême droite fasciste en Grèce. Et ce sont les années fin 44, disons, 45 et 46. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là en Grèce? Bon, c'est la fin de la guerre, c'est les derniers mois de la guerre. Et en Europe, ce qui domine, c'est l'antifascisme, c'est la mise à l'honneur de la résistance. Et en Grèce, il se passe exactement le contraire, c'est-à-dire que les résistants sont persécutés, emprisonnés, déportés, assassinés. Alors quand je dis les résistants, c'est surtout ce qui est l'essentiel de la résistance, c'est-à-dire le grand front de l'EAM, Front National de Libération. À l'inverse, les collaborateurs, eux, sont très largement acquittés, maintenus à leur poste dans leur grande majorité, que ce soit dans la justice, dans les services publics, à l'université. Le plus grave, à part cette épuration à l'envers, c'est que sont acquittés notamment ceux qui ont été vraiment des criminels, c'est-à-dire qui ont aidé les Italiens, les Allemands à terroriser la population et à persécuter les résistants, les organismes de répression, la police, la gendarmerie, et puis toutes ces milices qui ont été créées par les gouvernements collaborationnistes, notamment les bataillons de sécurité. Et puis, encore plus grave, c'est que tous ces gens-là, non seulement criminels, donc, ont été acquittés, mais en plus, ils ont été ensuite intégrés.
Grèce, Italie, Espagne, Portugal, Hongrie. En revenant sur les années qui précèdent l'arrivée du fascisme, dans chacun de ces pays, on voit se dessiner un scénario identique. À chaque fois, c'est l'extrême polarisation de la société qui va servir de marchepied à l'arrivée des fascistes au pouvoir. L'arrivée des colonels au pouvoir en Grèce s'inscrit dans une longue tradition d'extrême droite qui remonte au régime de Metaxas. Cette première dictature de type fasciste, inspirée par l'exemple de Mussolini, se présente comme la troisième civilisation hellénique après l'Antiquité et Byzance. De 1936 à 1941, Metaxas a formé une génération de militaires qui perpétueront son héritage idéologique et ses méthodes tout au long de la guerre civile et de la junte des colonels. Répression, torture, emprisonnement des communistes. Constitution d'un fichier d'opposants dans lequel les colonels puiseront abondamment et enfin transformation de petites îles peu fréquentées en camps de prisonniers politiques. Des îles-prisons qui serviront elles aussi jusqu'à la fin de la dictature des colonels. À la mort de Metaxas en 1941, les communistes s'engagent dans la résistance contre l'occupation de la Grèce par les puissances de l'Axe. Fondé par le Parti communiste, l'EAM, Front de Libération Nationale, réunit plus largement la gauche et les républicains. Contrôlant la plus grande partie du territoire à la fin de la guerre, l'EAM met en place, dès 1944, un premier gouvernement, le Comité politique de libération nationale.
Ce que veut l'EAM, c'est qu'à la libération, il y ait des élections, à une assemblée constituante, et qu'il y ait également un référendum sur la question du régime politique. Et le régime politique est une monarchie à ce moment-là. Churchill y tient très fort parce que pour Churchill, c'est le garant du maintien de la Grèce dans l'orbite britannique. Il est très ami avec le roi de Grèce, George II, qui est à Londres d'ailleurs pendant toute la guerre. Et puis, il y a bien évidemment un programme de réforme tout à fait du genre de celui de la résistance française. Et ça, ça inquiète non pas seulement les Anglais, mais également les classes dirigeantes grecques, qui constate que y a une volonté de réformer la Grèce, disons-le comme cela. Or, ce qui est inouï, c'est que donc Churchill a toujours présenté l'IAM comme une organisation communiste qui voulait prendre le pouvoir, alors que le but de l'IAM, ce n'était pas du tout ça, c'était de faire les choses par la voie parlementaire, donc avec des élections, avec le référendum, etc. Et l'IAM a fait des concessions extraordinaires. Et ils ont accepté surtout, et ça c'était d'ailleurs une grosse erreur de leur part, le débarquement des troupes britanniques en octobre 1944. Et le débarquement des troupes britanniques est prévu par Churchill déjà un an auparavant, est prévu pour se produire au moment du retrait des Allemands. C'est-à-dire que les Anglais n'ont pas débarqué du tout pour chasser les libérateurs de la Grèce, hein. Ils ont débarqué, bien évidemment, pour reprendre le contrôle de la situation. En fait, si les Allemands se sont retirés, c'est parce que l'armée rouge descendait dans les Balkans, qu'elle est arrivée à la frontière grecque, et que, bon, il n'était pas question que... Voilà. Donc, c'est la raison du débarquement anglais, parce qu'en plus, c'est un pays allié. Il n'y a aucune raison. Hein, les pays qui étaient destinés à être occupés, c'était les pays de l'Axe. Or, la Grèce est un pays allié. Et donc, il est bien évident que c'était pour restaurer l'ordre, et surtout pour aider les classes dirigeantes grecques à le faire, qui n'avaient pas la puissance suffisante.
Et ça se passe avec violence, en fait.
Ah bah oui, ça a été terrible. Hein. Ça a été 33 jours de combat entre les partisans qui étaient des jeunes gens des quartiers populaires, qui avaient très peu d'armes, enfin qui en étaient à arrêter les tanks avec des couvertures, avec des grenades. Enfin bon, il y avait un peu d'armement, mais il y en avait très peu.
Donc on se retrouve avec d'un côté les résistants et d'un autre côté les collaborateurs et les alliés.
Oui, oui, non, mais c'est une situation absolument inouïe et qui est peu connue. Et puis les Anglais, c'est pas simplement des hommes, c'est des tanks, c'est des bombardements. Les Allemands n'ont jamais bombardé Athènes, mais les Anglais, si, et pas qu'un peu. C'est-à-dire que tous les jours, il y avait des bombardements avec tout ce qu'on peut imaginer, dans une ville, avec donc énormément de morts civiles qu'on n'a jamais vraiment évaluées.
La guerre civile, c'était une conséquence de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale que
Christina Koulouri,
à part les nazis et les forces libérales, c'était aussi les forces communistes qui, en Grèce, étaient les protagonistes du mouvement de résistance. Et donc, le lendemain et de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un conflit autour du pouvoir. Le régime était une monarchie parlementaire, mais le réseau du pouvoir excluait les communistes, et la gauche en général, donc un grand nombre des vaincus, des communistes vaincus, se sont enfuis dans les pays du bloc soviétique, et aussi des autres qui sont restés en Grèce étaient en fait exclus d'un grand éventail de boulot, de droits, et il y avait même des gens qui étaient persécutés. C'est-à-dire qui étaient renvoyés en exil dans les îles grecques comme Macronissos, où il y avait des camps de concentration. Et donc la société grecque du lendemain de la guerre civile était une société de conflit et pas de consensus. En fait, la guerre civile grecque, c'est la première guerre chaude de la guerre froide.
Thank you.
On peut dire que la guerre civile a commencé en 1943. Pourquoi ? Parce que dès 1943, on voit bien que la résistance, enfin, et surtout les âmes, prend une dimension absolument énorme. Donc, les classes dirigeantes grecques ont commencé, donc, dès ce moment-là, à essayer de créer des organisations concurrentes qu'elles finançaient. C'est des gens dont le rôle est d'aider les Allemands à réprimer les résistants, mais de façon extrêmement violente.
Πατριώτες, εγώ δεν μαρτυράω. Ψηλά τα κεφάλια.
Il y a cette chose qui est assez connue, parce qu'il y a même eu un film d'Ado Kirou là-dessus qu'on a vu en France dans les blocos. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bloco ? Comme son nom l'indique, ça veut dire que les Allemands, les miliciens, les gendarmes de la sécurité spéciale et tous ces gens-là encerclent un quartier, obligent tout le monde à venir sur la place. Et une fois que tout le monde est sur la place, il y a des mouchards cagoulés qui désignent ceux qui sont partisans de l'IAM. Mmh. Et les gens qu'ils ont désignés, ou bien sont fusillés sur le champ, ou bien sont raflés. Alors on les met éventuellement dans le camp de Haïdari, où il y avait justement tous ces gens qui étaient... ramassés par les Allemands. Et puis, il y en a aussi qui sont envoyés en Allemagne pour travailler. Alors là, ce qu'on appelle la guerre civile, c'est 46-49. C'est ceux qui, ne pouvant plus vivre, reprennent les armes et puis entrent très progressivement, d'ailleurs, dans l'affrontement avec... un nouveau régime qui s'installe après Varkiza et qui les a terrorisés. Quoi.
Et ça, elle se termine comment, finalement, cette guerre civile ?
Je vous ai parlé de l'importance des Anglais dans l'installation du fascisme en Grèce. Hein, ça, je ne suis pas beaucoup à insister là-dessus, mais bon, c'est fondamental. S'il n'y avait pas eu Churchill et en décembre 1944, il n'y aurait pas eu la suite. Hein. Et le facteur essentiel, c'est qu'en 1947, c'est les Américains qui interviennent. Et là, c'est autre chose, parce que les Anglais n'y arrivaient plus. Donc les Anglais ont lâché l'affaire, si on peut dire, je m'excuse pour l'expression, et ont passé le flambeau aux Américains, qui sont intervenus à partir de 1947.
Vous savez, la Grèce a une place géographique
Costa Gavras.
Qui a toujours intéressé les grandes puissances. C'est le passage vers l'Orient, c'est le passage vers l'Égypte et vers l'Asie. Donc, toujours les grandes puissances ont voulu contrôler la politique grecque. C'était les Anglais d'abord, les Allemands ont essayé à un moment donné, mais ça n'a pas très bien marché. Et après, c'est les Américains. Et la Grèce était, d'une certaine manière, le centre de la Méditerranée, avec l'Italie. Donc, c'est le centre le plus important parce que c'était vers l'Orient. Qui contrôlait la mer, contrôlait l'Orient, qu'il fallait passer par la Grèce. Le général américain qui est arrivé, le roi ou premier ministre, lui a montré l'armée grecque et a dit « Mon général, voilà votre armée ». Et c'est vrai qu'ils sont arrivés avec des moyens extraordinaires. Il suffit de vous dire que le napalm qu'on a beaucoup utilisé en Vietnam plus tard, la première fois a été utilisé en Grèce, dans les montagnes grecques. Donc les Américains ont complètement envahi la Grèce, que ce soit économiquement, mais que ce soit aussi militairement et naturellement politiquement.
C'est en Italie, après la Première Guerre mondiale, que naît le fascisme. Avec Marianne Matar-Bonucci,
Nous revenons sur les origines de ce mouvement dont la rapide ascension en fera un modèle pour tous les dictateurs européens en puissance, de Metaxas à Hitler.
Alors le fascisme est vraiment un héritage de la guerre, un héritage de la Grande Guerre. Et c'est pour cela que toutes les hypothèses qui voient par exemple dans la France de la fin du XIXe siècle le creuset du fascisme semblent véritablement fantaisistes lorsque on a étudié l'histoire du fascisme italien. L'héritage de la guerre est présent à plusieurs titres. Il est présent d'abord parce que une première transformation politique majeure se produit au moment de la bataille, ce qu'on appelle la bataille interventionniste, c'est-à-dire les mobilisations en 1915 qui surviennent pour que l'Italie, qui avait choisi la neutralité, s'engage en guerre aux côtés des alliés. Et lors de cette bataille interventionniste se produisent des regroupements entre des courants syndicalistes révolutionnaires, des nationalistes et également des gens qui viennent du futurisme, ce courant esthétique porté notamment par Marinetti. Et ce groupe-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Eh bien, c'est la violence. C'est l'idée que pour faire avancer l'histoire, il faut utiliser la violence. Ces gens vont se retrouver lors de la fondation du mouvement des faisceaux, en mars donc 1919. L'autre héritage de la guerre, eh bien, c'est ce que des historiens comme Stéphane Noin-Rousseau et Annette Becker et d'autres ont appelé, dans le sillage de Georges Lachmann-Mossé, ont appelé la culture de guerre. C'est-à-dire que la guerre marque profondément les sociétés, marque les cultures politiques et crée une espèce d'habitude, au fond, à résoudre les conflits par la violence. Et la guerre laisse également en héritage des rites, des liturgies qui passent directement dans le fascisme italien, avec en particulier, pour ce qui est du fascisme italien, l'héritage de ce qu'on a appelé les arditi, littéralement les audacieux. C'était les troupes de choc qui ont été constituées à la fin de la guerre, ces hommes qui allaient en première ligne dans les tranchées, qui faisaient notamment les combats au corps à corps avec l'ennemi, et certains de leurs rituels, par exemple le fait de prêter serment avec un poignard brandi vers le ciel, ou le symbole de la tête de mort, vont passer directement au fascisme, et ces arditi seront également très présents lors d'un épisode qui joue un rôle important aussi dans ce qui est comme une espèce de répétition au fond de la marche sur Rome. C'est la conquête de la ville de Fiume, la proclamation donc la République du Carnaro à Fiume, c'est-à-dire de la constitution de Fiume en cité État. En 1919, lorsque le poète Gabriele D'Annunzio, avec justement des anciens combattants et des arditi, marche sur Fiume, avec ensuite l'intention de marcher sur Rome, pour obtenir le rattachement de la ville qui ne figurait pas, du fait des traités, dans les territoires qui devaient être attachés à l'Italie à l'issue de la guerre, et qui donc s'empare littéralement de la ville pour demander son rattachement à l'Italie.
Ce qui sera un échec.
Ce qui sera effectivement un échec, puisque le gouvernement italien décide de faire évacuer par la force la ville de Fiume, donc en 1920. Mais pendant quelques semaines, quelques mois, Fiume va devenir un laboratoire où seront imaginées et expérimentées un certain nombre de pratiques et de projets politiques. Et il y a notamment une charte, la charte du Carnaro, qui va être couchée sur le papier par D'Annunzio et un syndicaliste révolutionnaire, De Ambris, qui représente en quelque sorte l'âme de gauche du fascisme italien, qui sera très vite oubliée. Mais à ce moment-là, par exemple, l'idée de corporatisme figure en bonne place dans cette charte du Carnaro. Et donc, Fiume va être le point de mire des nationalistes, pas seulement italiens d'ailleurs, européens, pendant ces quelques mois, parce qu'il y a à la fois une dimension nationaliste très importante, il y a une dimension également de contestation de l'ordre de Versailles, hein, du traité de Versailles, ce qui va être présent dans de nombreux nationalismes après la guerre, et en même temps la volonté d'inventer quelque chose sur le plan politique avec de nouvelles convergences, notamment entre le syndicalisme révolutionnaire et le nationalisme.
Portiere, marciam verso l'avvenire, sia il falange audace e fiere, pronti a osare, pronti a ardire, pionti al fine l'ideale, per cui tanto combattemmo, frato l'alfa nazionale, italiana.
Les Italiens ont l'impression qu'ils ont été trahis.
Didier Musidlac.
L'idée qu'ils ont fait une guerre pour rien, qu'il y a eu 600 000 morts, c'est le thème, vous savez, classique de la victoire mutilée. C'est quelque chose qui est très important. Et au lendemain de la guerre, il y a une aspiration des masses à participer à la vie politique. Dans un système qui était un système quand même quasiment oligarchique, qui était tenu, si vous voulez, par une élite traditionnelle de notables. Vous aviez un grand maître de cette politique qui était Giovanni Giolitti, qui règne sur l'Italie entre 1900 et 1914, et qui est quelqu'un qui faisait, défaisait les majorités. Vous savez, ça se passe encore en Italie. Prenons le cas de Silvio Berlusconi, pour prendre une comparaison un peu hasardeuse. Donc les majorités se faisaient comme ça. La guerre va complètement modifier le jeu. Et la force de Mussolini, c'est d'avoir compris qu'il y avait un avant et un après. L'après, c'est le monde des masses. Tout le problème après est de savoir comment on va faire une révolution. Mussolini, en mars 1919, pense qu'il va la faire à gauche. En réalité, les choses vont se devenir plus complexes. Pourquoi ? Parce que le mouvement fasciste va être investi par un phénomène très important qui est le squadrisme. Vous savez, ces hommes armés de bâtons, l'huile de ricin, etc., qui n'étaient pas vraiment des plaisantins, et qui s'attaquent aux socialistes. Et il y a ce qu'on appelle la peur des rouges. La peur des rouges, qui fait qu'à partir de ce moment-là, vous avez une violence effrénée qui commence à se développer en Italie pendant les années 20-21. Et donc, à partir de là, vous avez les classes dirigeantes qui sont apeurées et qui vont commencer à investir le parti fasciste, qui vont investir et qui vont l'orienter progressivement vers la droite. Et en conséquence, vous avez là, si vous voulez, un phénomène qui fait qu'au moment du congrès de fondation du parti fasciste, ce qu'on appelle le congrès de l'Augusteo, parce qu'il se tient tout simplement dans l'ancien mausolée, vous savez, d'Auguste à Rome, eh bien, le congrès lui-même va orienter vers un système où vous avez un petit groupe qui s'empare du mouvement fasciste.
C'est en quelle année, ça ?
Nous sommes en 1921. Mais attention, le parti fasciste, à ce moment-là, n'est pas un parti armé au sens traditionnel du terme. Il est alimenté par la milice, c'est-à-dire, donc, je dirais, tous les squadristes que je viens d'évoquer, c'est-à-dire des gens qui sont issus, en gros, de l'Italie centrale, l'Émilie-Romagne, la Toscane, les zones aussi des grands propriétaires, et qui, eux, pratiquent la violence. Mais tout le problème est de savoir, quand vous voulez prendre le pouvoir, la violence, il faut l'instrumentaliser. Il faut créer un appareil adéquat pour qu'il puisse fonctionner. Et c'est là, si vous voulez, que les problèmes vont devenir de plus en plus difficile à maîtriser, à la fois pour Mussolini et pour la direction du parti.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Tu
tous on est d'accord. La grève s'est décidée.
La grève? Vous savez ce que ça veut dire, la grève? Hein? Est-ce que vous savez bien ce que ça veut dire?
À la suite de cela, développe donc une mobilisation des ouvriers, des paysans, très importante, donc pendant 2 ans, avec des grèves, avec en particulier à Turin des occupations d'usines. C'est ce qu'on appelle le mouvement des conseils d'usines. Conseil faisant référence aux soviets, bien évidemment, en Russie, en Union soviétique. Et c'est ce qu'on appelle aussi le mouvement de l'Ordine Nuovo, du nom d'un journal dont le leader bientôt communiste, Antonio Gramsci, est l'inspirateur. Et donc, ce contexte d'agitation sociale va susciter une peur très importante, sans proportion avec la réalité du mouvement, parce que la plupart des ouvriers, des paysans ne veulent pas la révolution. Ce qu'ils veulent, c'est effectivement de meilleures conditions de vie, simplement. Mais l'épouvantail soviétique joue à plein, et donc la peur, encore une fois, est considérablement amplifiée. Donc, dans ce contexte-là, d'autant que dans d'autres pays, en Allemagne, en Hongrie notamment, il y a de vraies tentatives donc révolutionnaires. Pensons au pouvoir de Béla Kun en Hongrie, ou encore à la révolution spartakiste en Allemagne. Et donc, un climat de peur se développe au sein des classes moyennes et des élites qui vont peu à peu apporter leur soutien à ce mouvement des faisceaux de combat, donc qui a été créé par Mussolini en mars 1919. Et le nom du mouvement est très important, puisqu'il s'agit bien de combattre, c'est-à-dire de combattre par la violence, le mouvement donc social.
Quand vous parlez de soutien, c'est un soutien économique, c'est un soutien humain, c'est-à-dire qu'ils s'engagent physiquement dans cette lutte?
Alors le soutien est de différentes natures, il est bientôt économique, en effet, une partie des grands industriels, des propriétaires, ce qu'on appelle les agraris, les propriétaires terriens, vont soutenir financièrement les faisceaux. Et ce soutien va aussi prendre la forme de complicité de la part de la police, c'est-à-dire de la part d'une partie des institutions qui ne réprime pas, comme il aurait été nécessaire de le faire, cette violence qui est souvent une violence homicide. Ça va très très loin. À l'intérieur donc des faisceaux de combat, puis à partir de novembre 1921, ce seront les sections du parti fasciste, puisque le mouvement se transforme en parti. Existe donc ce qu'on appelle les squadres, qui sont des groupes armés qui mènent ce qu'ils appellent des expéditions punitives, qui consistent tout simplement à aller attaquer donc les adversaires politiques. Alors, il est arrivé parfois que cette violence soit défensive, c'est-à-dire qu'elle réponde à une violence des communistes ou des anarchistes, mais dans la plupart des cas, c'est une violence offensive qui vise encore une fois à démanteler donc les organisations ouvrières. Alors elle peut être ciblée, c'est-à-dire qu'on va attaquer un individu chez lui, on entoure sa famille, on l'oblige, ça fait partie des rituels de violence se mettent en place à ce moment-là, dont on oblige par exemple les gens sous la menace à boire de l'huile de ricin, on les menace, il y a des armes qui sont des armes typiques, en particulier ce qu'on appelle le manganello, qui est une matraque. Donc une violence qui peut être ciblée, qui peut aller parfois jusqu'au meurtre, souvent même, ou des violences de groupe avec ce qu'on appelle aussi donc toujours les expéditions punitives. Mais cette fois, ce sont des centaines, parfois jusqu'à 1 millier de chemises noires qui se déplacent en camion et qui vont faire le siège de municipalités lorsque le maire, par exemple, est socialiste ou communiste. Et il peut y avoir plusieurs morts donc à l'issue de ces expéditions. Donc il y a en effet, lorsque Mussolini arrive au pouvoir, l'Italie est dans une situation de quasi-guerre civile, hein, depuis près de 2 ans.
En Espagne, tout commence avec la proclamation de la Seconde République en 1931, qui entend rompre avec la monarchie et moderniser le pays. L'Espagne est alors très en retard sur les autres pays européens. Un pays pauvre, très inégalitaire, avec un fort taux d'analphabétisme et marqué par le poids de la religion. Mais les réformes ambitieuses sur la question de l'Église, justement, ou de l'éducation, vont aggraver la polarisation de la société, comme nous l'explique Amélie Nuc.
On ne peut pas expliquer l'arrivée au pouvoir de Franco et la guerre civile sans en revenir donc à la période de la Seconde République, donc qui est proclamée en avril 1931. Jusque-là, il y avait un régime monarchique qui prévalait en Espagne.
Comment elle intervient, cette République ?
Des élections municipales qui se déroulent en avril 1931. Et ces élections municipales sont remportées par des candidats qui appartiennent à une coalition de républicaine. Donc victoire aux élections municipales, la foule en liesse descend dans les rues et appelle de ses voeux la proclamation d'une république. Alors Alphonse XIII, qui est le souverain qui règne à ce moment-là, comprend assez vite qu'il ne parviendra pas à maintenir la monarchie, sauf au prix d'un bain de sang. Donc il décide de s'exiler. Et du coup, c'est cette victoire aux élections municipales qui aboutit ensuite à une victoire aussi de la coalition républicaine aux élections constituantes. Et la constitution de la Seconde République est adoptée justement à la fin de l'année 1931. Alors c'est une période qui est très controversée dans l'histoire de l'Espagne. Il y a des gens qui considèrent que ça a été une occasion unique de moderniser l'Espagne, puisque c'est le moment où on a séparé l'Église et l'État, où les femmes ont acquis le droit de vote, hein, bien avant la France, par exemple. Et pour d'autres, c'est une période qui a exacerbé les divisions et les conflits qui fracturaient la société espagnole. Et d'ailleurs, le coup d'État de juillet 1936 est défendu par ses promoteurs comme un moyen de restaurer l'ordre. Le prétexte avancé, c'est celui d'une révolution communiste. Alors les historiennes ont démontré depuis que cette révolution n'existait que dans l'imagination des putschistes. Mais ce qui est évident, c'est que ce coup d'État a un caractère contre-révolutionnaire. Franco et les militaires autour de lui ne veulent pas déclencher une guerre civile, mais ils veulent paralyser les institutions de la République et écraser le mouvement ouvrier. Et finalement, ce qui déclenche une guerre civile et ce qui retarde l'arrivée au pouvoir de Franco sur la totalité du pays, c'est la résistance qui est trouvée par les insurgés. Il faut vraiment voir du coup à la fois le coup d'État et la guerre civile comme la volonté d'instaurer un autre modèle politique, un autre modèle de société, une autre Espagne, qui est une Espagne héritée, si vous voulez, de la période du siècle d'or, l'Espagne des rois catholiques, l'Espagne de la grandeur impériale, qui avait été mise à mal, par exemple, par la perte des dernières colonies espagnoles en 1898.
Oui, il y a la guerre du Rif également.
Oui, alors ça c'est le terrain colonial sur lequel l'Espagne essaie de restaurer sa puissance perdue, puisqu'un protectorat est instauré par l'Espagne dans le nord de l'Afrique, où elle est en rivalité d'ailleurs avec notamment avec la France. Et c'est intéressant dans la mesure où un certain nombre de militaires justement qui réalisent le coup d'État de juillet 1936 sont ce qu'on appelle des africanistes, c'est-à-dire des militaires qui ont fait carrière en Afrique du Nord, une carrière extrêmement rapide. Et ils vont d'ailleurs importer ensuite sur le sol de la péninsule un certain nombre de méthodes très brutales qui sont des méthodes de guerre coloniale qui ont été expérimentées justement, par exemple, pendant la guerre du Rif. Il faut voir ça comme la volonté, si vous voulez, pour l'Espagne de perpétuer dans le nord de l'Afrique une présence coloniale, une présence impériale qu'elle a perdue depuis la fin du 19e siècle. Or, on sait que l'empire de Charles Quint notamment et de Philippe II était un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Donc il y a une volonté féroce de la monarchie et puis d'un certain nombre d'hommes politiques, de militaires, de retrouver dans le nord de l'Afrique une présence perdue qui est synonyme de déclin du pays. Il 1931, donc c'est le moment où est proclamée donc une république. On en finit avec la monarchie qui avait été restaurée en 1875. Et la Seconde République est synonyme donc d'accession au pouvoir d'hommes comme Manuel Azaña, par exemple, de républicains qui sont progressistes, qui sont convaincus que les masses doivent désormais être éduquées, qu'il faut résoudre la question agraire, par exemple, qu'il faut résoudre aussi la question sociale, le mal-être des ouvriers. Donc ce régime a beaucoup d'ambition en 1931 et 1932. Hein. Je vous ai dit, on octroie le droit de vote aux femmes, on proclame le mariage civil, on sépare l'Église et l'État.
Oui, donc, ça c'est énorme, le mariage civil dans l'Espagne catholique.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est justement, si vous voulez, comme ça qu'il faut voir après ce que Franco met en place lorsqu'il arrive au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté d'en finir avec la parenthèse républicaine qui est considérée comme un moment où l'Espagne s'est perdue, comme un moment d'anarchie, comme une victoire de la franc-maçonnerie, du judaïsme. On considère que les améliorations apportées à la condition féminine ont contribué à ce désordre auquel il faut mettre fin. Donc c'est vraiment deux modèles de société qui s'opposent, hein, celui du début de la Seconde République et le modèle de l'Espagne franquiste, qui par exemple considère que la place des femmes doit être au foyer, ce qui n'était pas la vision que défendait une bonne partie des républicains en début des années 30.
Au Portugal également, une première dictature militaire se met en place dès 1926 pour contrer la très progressiste République démocratique instaurée 16 ans plus tôt. Mais pour Yves Léonard, spécialiste du Portugal, les origines de la dictature de Salazar sont à chercher plus loin encore.
Alors je dirais que la toile de fond, c'est une crise, on pourrait qualifier une crise de la conscience nationale. Je veux dire par là que le Portugal est un pays qui, tout au long du 19e siècle, a eu la perception, la conscience d'un déclin, qu'il n'était plus la puissance qu'il avait été naguère, et surtout depuis les guerres napoléoniennes, depuis la perte du Brésil, l'indépendance du Brésil en 1822. Et tout au long du 19e siècle, les élites politiques ont cherché à retrouver une forme de grandeur passée. Avec le thème de la régénération politique, qui est un thème central dans l'histoire politique portugaise au XIXe siècle, et de s'inventer, comme on le disait à l'époque, de nouveau Brésil en Afrique. Le thème du nouveau Brésil en Afrique est tout à fait important pour finalement fixer un nouvel horizon mobilisateur pour ces élites. Et cette crise de la conscience nationale va se cristalliser lors d'une crise diplomatique en 1890, qui s'appelle la crise de l'ultimatum, en janvier 1890, où le vieil allié britannique, depuis le XIVe siècle, dit aux Portugais, bien écoutez, arrêtez de faire vos explorations et de vouloir faire une liaison entre l'Est et l'Ouest, en Afrique australe, entre l'Angola et le Mozambique. Pourquoi ? Parce que ça contrecarre nos intérêts. L'axe Le Cap, Le Caire, cher à Cécile Rhodes et aux Britanniques, vient en opposition. Et donc le roi du Portugal de l'époque est obligé de se plier à l'exigence, à l'injonction britannique. Et ça, c'est quelque chose de très très mal perçu, avec beaucoup d'amertume, un ressentiment profond à l'égard de la monarchie constitutionnelle, à l'égard des élites. Au sein des élites, il y a un mouvement républicain qui va se cristalliser autour de cette crise de l'ultimatum. Et je dirais que la République, lorsqu'elle est instaurée en 1910, précocement, c'est la seule république avec la France avant la Grande Guerre, le 5 octobre 1910. C'est une république qui est née par dépit et par volonté de tourner la page de cette monarchie constitutionnelle qui a été incapable de restaurer la grandeur passée. Alors évidemment, les choses ne vont pas tourner comme espéré pour la république parlementaire, mais cette crise de la conscience nationale, ce sentiment du déclin est très prégnant, très fort au sein des élites. Et puis la République parlementaire, elle, va essayer très rapidement de mettre en place des mesures qui, dans le Portugal de l'époque, vont se révéler assez impopulaires, assez difficiles à faire passer. La principale d'entre elles, c'est la séparation des Églises et de l'État, qui est un copier-coller, si l'on peut dire, de la loi de séparation des Églises qui a été adoptée en France en décembre 1905, qui s'en inspire très fortement. Et dans un pays de forte tradition catholique comme le Portugal, cette loi du printemps d'avril 1911 est très très mal vécue. Et là, il va y avoir beaucoup beaucoup de tensions. La hiérarchie catholique va s'opposer évidemment à la République parlementaire. Les monarchistes vont essayer de reprendre la main. Et donc cette République va être confrontée à des difficultés très très grandes. Et c'est là, sur ce terreau-là, que l'idée de dictature va faire son lit. Elle va faire son lit sur l'idée que ce pays est en plein marasme, ce qui est là aussi à nuancer, mais c'est la conscience qui prédomine dans les années 1920, donc il faut rétablir l'ordre. Et que, au-delà de rétablir l'ordre, il faut se doter d'un système avec une idéologie derrière politique qui serait pratiquement aux antipodes de ce que la République parlementaire a voulu mettre en place. Et c'est là qu'intervient Salazar. Salazar ne réalise pas le coup d'État qui va renverser la République parlementaire le 28 mai 1926. Il est professeur à l'université de Coimbra, mais il va être sollicité pour devenir ministre des Finances. Il va l'être quelques jours et retourner finalement à Coimbra, on va dire, considérant que la situation n'est pas mûre. Et ces militaires, qui essentiellement dirigent la dictature, vont se révéler incapables de trouver des solutions, notamment financières. Donc c'est un pays qui, en quelques mois, se retrouve au bord de la banqueroute. Et donc, celui qui va arriver comme l'image un peu d'un sauveur, c'est ce professeur d'économie de l'université de Coimbra, réputé pour ses prises de position dans la presse, notamment sur les questions financières, et connu également pour ses prises de position politiques, où il est devenu le plus ferme espoir de la hiérarchie catholique, du centre catholique. Et c'est au point de convergence de tout ça que Salazar occupe le ministère des Finances. Donc c'est une volonté à la fois de remettre de l'ordre, les militaires disent nettoyer les écuries d'Augia, remettre de l'ordre, et retrouver aussi de la confiance et de l'équilibre budgétaire, et en toile de fond, parce que c'est un nationaliste, Salazar, c'est un nationalisme que je qualifie souvent de tellurique, de la terre et des morts, comme on disait à l'époque avec Barrès et d'autres. C'est un homme qui est complètement imprégné de l'idée qu'il faut restaurer la grandeur passée du Portugal. Et c'est là qu'on retrouve cette lame de fond qui parcourt tout le XIXe siècle, et dont Salazar, d'une certaine manière, est l'expression, sinon la synthèse. Et c'est dans ce contexte-là qu'il vient prendre le pouvoir techniquement, financièrement, avant de pouvoir impulser fixer un nouvel horizon où la question nationale est centrale. Et comme le régime salazariste va le répéter à plusieurs reprises, le Portugal n'est pas un petit pays.
Dans la galaxie des dictatures du type fasciste en Europe, il y a une expérience moins connue, peut-être justement parce qu'elle est plus difficile à définir, c'est celle de la Hongrie du régent Horthy. À la fin de la Première Guerre mondiale, et alors que l'Empire austro-hongrois est complètement démantelé, la Hongrie est amputée des deux tiers de son territoire. Après le départ du roi et deux révolutions, dont une bolchévique, le régent Horthy est appelé au secours du pays, instaurant dès 1920 et jusqu'en 1944 un régime nationaliste, autoritaire et réactionnaire, qui se rapprochera dans les années 30 de l'Allemagne nazie dans l'espoir de récupérer les territoires perdus après la Première Guerre mondiale. Un détour en Hongrie donc avec Catherine Aurel, historienne et auteure d'une biographie sur l'amiral Horthy.
Donc cette prise de pouvoir, elle se passe le 16 novembre 1919. Horthy arrive à Budapest à la tête d'une armée contre-révolutionnaire, une armée qui s'appelle l'armée nationale, qu'on appelle armée nationale, et qui en fait est une reconstitution des forces armées hongroises après la défaite de la Première Guerre mondiale de 1918. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est comment, en quelques mois, finalement, la Hongrie a vécu un nombre considérable d'événements qui permettent à ce groupe contre-révolutionnaire d'arriver au pouvoir. Alors, pourquoi contre-révolutionnaire? Ça veut dire qu'il y a eu une révolution auparavant, et en fait, il y en a même eu deux. Bon, la première révolution, c'est celle qui suit immédiatement l'effondrement de l'Empire. Donc en octobre 1918, l'Empire des Habsbourg s'effondre. Dans les premiers jours de novembre, l'empereur, qui est empereur en Autriche et roi en Hongrie, n'abdique pas tout à fait. C'est un point important pour la suite d'ailleurs. Il remet ses pouvoirs. Et donc c'est un gouvernement démocratique à Budapest qui prend le pouvoir. Ce gouvernement démocratique, il est mené par une large coalition de partis, disons, progressistes, qui entreprend de mettre en place le suffrage universel, qui a vraiment un projet tout à fait démocratique. Le problème, c'est que ce projet démocratique ne peut pas se mettre en œuvre parce qu'on est dans une période de bouleversement total qui est justement la fin de l'Empire et le fait que le territoire de la Hongrie est envahi par ce qu'on va appeler les États successeurs. Donc les armées tchéco-slovaques, je mets un trait d'union entre les deux, les armées tchéco-slovaques, les armées roumaines et les armées serbes qui entreprennent de prendre les parties du territoire hongrois que les mouvements nationaux revendiquaient. Donc ce gouvernement hongrois démocratique, il est dans une situation intenable parce que d'un côté, il se présente comme démocratique et voulant parler aux alliés, à l'entente, mais dans le même temps, l'entente, comme on le sait, a fait des promesses de gains territoriaux aux futurs États successeurs. Et donc, le gouvernement hongrois est dans une situation intenable. Il veut à la fois faire des réformes tout à fait démocratiques, mais il en est empêché pratiquement par la situation internationale. Et la Hongrie, se trouvant du côté des vaincus, évidemment, n'a pas voix au chapitre auprès des alliés, comme peuvent l'avoir les Serbes, les Roumains, les Tchécoslovaques. Donc, le gouvernement est dans une situation intenable sur le plan international, et il est très rapidement dans une situation intenable sur le plan local, parce qu'il est sans cesse mis en minorité, ou il est contesté sans cesse, par les gens qui sont encore plus démocratiques, enfin, qui se croient encore plus démocratiques, et encore plus radicaux, qui est donc le jeune parti communiste qui vient de se former, suite à l'arrivée dans le pays de gens qui ont été prisonniers en Russie et où ils se sont bolchevisés, où ils se sont formés au bolchevisme. Ils arrivent en Hongrie à peu près au moment où l'État s'écroule, hein, en octobre-novembre, et cette opposition bolchevique réclame exactement ce qui s'est passé en Russie, donc dictature du prolétariat, tous les moyens de production mis entre les mains du peuple, etc. etc. Et le moment de crispation totale arrive au mois de mars 1919, où le gouvernement donc se démet, et en fait, c'est le coup qui permet aux bolcheviques de prendre le pouvoir. Et c'est un faux coup d'État, parce que finalement, d'une certaine manière, le président hongrois remet le pouvoir aux bolcheviques. Donc à partir de ce moment-là, on a une deuxième révolution. Et cette révolution bolchevique va finalement essayer de faire exactement la même chose que ce que faisaient les démocrates, c'est-à-dire de maintenir l'intégrité territoriale du pays, mais sous appellations de dictature du prolétariat. C'est-à-dire que l'armée rouge hongroise qui se forme à ce moment-là va aller dire aux Serbes, aux Roumains, aux Tchèques, aux Slovaques, etc., prolétaires de tous les pays, unissez-vous, les nations, c'est un truc de bourgeois, la guerre, c'est un truc de bourgeois, arrêtez tous les combats, rejoignez-nous. Mais en fait, rejoignez-nous pour faire une grande Hongrie, non plus royale, mais bolchevique. Et bien entendu, les autres qui sont sur un agenda de conquête nationale ne sont pas du tout prêts à devenir ni bolcheviques, ni à abdiquer leurs revendications nationales sous couvert d'une grande fédération communiste. Donc à partir de ce moment-là, dès le mois d'avril-mai, commencent à se former donc des forces réactionnaires, dans le sens de réaction à ce qui se passe, donc des forces contre-révolutionnaires qui vont, au fur et à mesure, gagner du terrain, et on va en arriver au point dont nous parlions tout à l'heure. « Horthy est-il le sauveur de la nation? Ça fait partie des questions qui ont été posées. Et lui, il s'est présenté comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a cru. C'est pas tellement que un jour, un matin, il s'est levé et il a pris son cheval et il s'est dit « je vais aller sauver la Hongrie ». Il a été appelé. Donc, qui va chercher Horthy? C'est ça, je pense qu'il faut qui va l'installer dans ce rôle de sauveur de la patrie. Donc, je parlais tout à l'heure des groupes contre-révolutionnaires qui se forment. Alors, il y a un groupe qui se forme à Vienne avec des aristocrates qui ont fui au moment de la dictature bolchevique. Et puis, un autre groupe se forme dans le sud du pays. Et là, on voit se cristalliser ces groupes d'hommes. Alors, je dis hommes parce que beaucoup sont des officiers ou des sous-officiers de l'armée qui viennent donc d'être démobilisés suite à la fin de la guerre. Et ce sont des gens qui vont être très typiques pour certains de ce qu'on va appeler l'homme nouveau. Voulu alors par les fascistes et puis par les communistes aussi, hein, il y a l'homme nouveau. Donc ce sont souvent effectivement plutôt des sous-officiers, souvent sortis du rang, souvent des gens donc issus non pas de l'aristocratie ou de la noblesse hongroise, mais de classes bourgeoises, voire populaires, mais pas tant que ça. C'est plutôt des petits bourgeois, des fils d'artisans, des fils de petits commerçants ou de petits fonctionnaires. Donc voilà, une couche comme ça, qui se trouvent à la fois désemployés après la guerre et désemployés dans leur tête aussi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de quelque chose pour se reconstruire, en fait. Et on va voir ça dans beaucoup de pays qui vont passer à des régimes fascistes. Cette dépression qui suit la fin de la guerre, la défaite, bien sûr, parce que ça n'arrive que chez les vaincus, ces choses-là. La fin de la guerre, la défaite et l'incapacité à se projeter et aussi à se projeter professionnellement. Qu'est-ce qu'on va devenir dans un petit pays comme ça? Bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils reprennent du service, en quelque sorte, enrôlés par les leaders de ces groupes contre-révolutionnaires dans lesquels on trouve toutes les grandes familles aristocratiques hongroises. Et très vite, il va y avoir un écart, une dissension entre ces hommes démobilisés volontiers radicaux et la grande aristocratie qui ne veut pas de violence. La grande aristocratie, elle veut juste revenir au pouvoir, retrouver ses terres. Elle n'a pas du tout envie de voir ces hommes arriver au pouvoir. Ce n'est pas du tout son modèle de société. Hein, c'est que chacun reste à sa place et les vaches seront bien gardées, en l'occurrence. Mais on va avoir besoin d'eux, parce que ce sont des militaires, ils savent s'y prendre. Et donc, on va avoir cette alliance perverse entre cette aristocratie hongroise et ceux qui vont l'aider à revenir au pouvoir. Et Horthy va être typiquement l'otage de ces groupes. Et donc, à partir du mois de mai-juin 19, se bâtit cette armée qu'on va appeler l'armée nationale et qui, au fur et à mesure, donc, remonte le long d'un grand axe sud-nord, mais à l'ouest du pays, pour arriver à Budapest, donc au mois de novembre 1919. Et dans l'intervalle, dans ces quelques mois, le problème, c'est qu'il y a un sentiment de vengeance de la part de tous ces officiers, sous-officiers, de ces détachements militaires, de vengeance contre les bolcheviks. Mais dans le bolchevique, on met le judéo-bolchevique aussi. Donc on va avoir, après une terreur rouge qui a été, on va dire, modérée et courte, on va avoir une terreur blanche qui, elle, par contre, va durer des mois et des mois, et où les troupes formellement commandées par l'amiral Horthy vont se livrer à des exactions absolument catastrophiques, alors contre tout ce qui paraît rouge, mais essentiellement contre les Juifs. Donc il y a vraiment une tache immédiate qui déteint sur l'uniforme de l'amiral Horthy dès le départ, c'est ça. Et il a beau s'en défendre, dire « je ne savais pas, on va les punir », etc. En fait, il cautionne. Horthy arrive à Budapest le 16 novembre 19 à la tête de son armée nationale. Et à partir du moment où la contre-révolution l'emporte, évidemment, c'est l'option royale, l'option de rétablir un royaume qui joue. En partie, par des convictions fortes de la part de ces contre-révolutionnaires, évidemment, qui sont presque tous des aristocrates, mais aussi pour deux autres raisons, parce que c'est ce que la population connaît. Donc, restaurer le royaume peut aider à l'adhésion du pays, qui est complètement déboussolé. Hein. Vu ce qui s'est passé depuis un an, il est logique que les gens aient été complètement déboussolés. La défaite, une révolution, une deuxième révolution, une contre-révolution, c'est beaucoup pour quand même.
Oui, et la perte des deux tiers du territoire.
Et la perte du territoire qui n'est pas encore entériné, mais dont on sent bien que c'est fichu d'une certaine manière. Donc il faut redonner des repères. Donc ramener la royauté, enfin le royaume, c'est quelque part redonner des repères et c'est aussi faire croire à la population que puisqu'il y a toujours le royaume, potentiellement, on va peut-être les regagner, ces territoires. Et là aussi, nouveau piège, la théorie révisionniste qui, en fait, va être la politique de l'amiral Horthy et pas une quelconque idéologie fasciste de sa part à lui. Il est assis sur cette croyance révisionniste qui est absurde, comme a dit même un de ses ministres, mais dans laquelle, finalement, toute la population croit, et on a vu tout à l'heure, même les communistes y croyaient, puisqu'ils ont essayé de maintenir ces territoires quand même dans le giron national.
C'était « Quand vient le fascisme en Europe ?» Les racines du fascisme. Avec Joël Dallègre, Joël Fontaine, Costa Gavras, Christina Koulouri, Catherine Aurel, Yves Léonard, Amélie Nuc, Marianne Matar-Bonucci et Didier Musidlac. Extrait des films Blocco d'Ado Kirou et 1900 de Bernardo Bertolucci. Coordination Marivonne Bolivier et Perrine Kervran. Merci à Véronique Jolivet de l'INA, à Fabien Perrier et à Angélique Kouounis. Prise de son Yves Lehors, Jérémy Thuil, Benjamin Perru, Marc Garvenès, Stéphane Touvenin et Marie Lepeintre. Un documentaire de Christelle Le Polothèque et François Teste.